Vous écoutez
RMC.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
Djoko est soumis à l'épreuve du temps.
RMC jusqu'à midi.
Voilà,
là il y a le temps qui passe.
Et les jeux qui défilent.
Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins.
Les grandes gueules du sport.
Là il est redevenu un homme, il a 38 ans et le temps fait son œuvre. Et c'est le pire des ennemis qu'il pouvait rencontrer.
Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la trompette.
Georges Quilineau.
Ah, le temps qui passe. Le temps qui passe. Effectivement, c'est un peu là. Sujet de la matinée dans les grandes gueules du sport. On est avec Marc Madiot, avec Julien Beneteau, Jérôme Pinault et Christophe Cessieux. Vous pouvez retrouver les deux premières heures en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes de téléchargement. Tiens, au programme de l'heure, il y aura les jeux tout à l'heure. D'ailleurs, en fin d'émission, remporter 200 euros de bons cadeaux. À valoir sur le site levantlafrançaise.com aujourd'hui. Vous pouvez faire de magnifiques cadeaux, des bracelets made in France. Franchement, allez-y pour remporter un bon de 200 euros. Hein. Avec 200 euros, on peut faire beaucoup de choses. Appelez le 3216, touche 4, ou envoyez JEU, J-E-U au 7-32-16. JEU, J-E-U au 7-32-16. En plus, c'est l'opportunité de jouer avec les GG. Et ça vaut le coup. On l'a vu hier encore. C'était chaud. Dans un instant, les GG sur le buzzer. Il y aura la mode de plus en plus présente dans le sport. Êtes-vous pour ou contre? Mais tout de suite, on ouvre la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, cette semaine, ce qui a attiré notre attention, c'est la décision de Thibaut Flamand, joueur du 15 de France, de renoncer au début du tournoi des 6 nations. Avec sa femme, ils vont avoir recours à la PMA, donc la procréation médicalement assistée, dans un timing en fait qui entre en conflit avec la rencontre d'ouverture de la compétition entre la France et l'Irlande. Il en a donc informé Fabien Galthié, le joueur Thibaut Flamand, qui a accepté sa décision. Il préfère donc privilégier dans cette séquence leur projet de famille plutôt que de partir absolument sur France-Irlande et mettre en danger ce projet-là. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça en fait, parce que c'est quand même assez rare que ça arrive sur la place publique comme ça, qu'on en parle. Comment on gère la vie privée quand on est sportif de haut niveau? Et forcément, des moments où des compétitions ou des matchs entrent en conflit avec des moments importants de la vie de tous les jours, hein. Je sais pas, vous êtes tous parents ici. Comment on gère ça? On n'en parle pas si souvent. Thibaut Flamand nous permet peut-être de le faire. Jérôme, sur la façon de gérer la vie privée quand on est sportif de haut niveau. Non, mais c'est vrai.
On doit te dire là où.
On est dans l'intime, tu le sais.
On peut balancer les dossiers.
C'est
ou...
important. Moi, je comprends la décision du joueur. Et moi, pour revenir sur mon cas et quand j'étais coursier, les naissances de mes filles, il était impensable de ne pas y assister. J'ai une anecdote que je t'ai racontée hier. C'est moi, mon ex-épouse et attend la première, Lou. On est en plein Paris-Nice. Et je pense que la nature est bien faite, puisque chaque Paris-Nice, à Paris-Nice, j'avais fait toutes les étapes et j'avais coché l'aéroport le plus proche. J'avais dit à Jean-René, tu me mets à Paris-Nice, pas de problème. À l'époque, déjà, on courait après les points.
Jean-René Bernadot, ton manager.
J'ai dit, l'équipe. Ok, pas de souci, mais par contre, je te préviens, si Relia déclenche, je me tire, j'y vais. Donc, j'avais fait tout le parcours avec l'aéroport le plus proche et j'avais donné mon téléphone portable au mécano. J'avais zéro confiance en Jean-René, au mécano, pour dire ta femme a accouché et tu rentres. Et du coup, la nature est bien faite, parce qu'Aurélie a tenu toute la semaine Lou est née 24 heures après l'arrivée de Paris-Nice. Et pour le deuxième, et ben écoute, on a calculé, on a fait en sorte que Zoé, la deuxième, soit née le 29 octobre pour être hors saison et pour pas perturber quelque part la saison. On a des exemples.
Et comment tu as couru Paris-Nice, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Ah oui, Wout Van Aert est parti du Tour de France
du Tour,
pour assister à la naissance de son enfant.
Bah, tu cours avec la boule au ventre important, c'est de pas louper. C'est pas l'étape, c'est de pas louper la naissance.
C'est ce qu'a pas voulu faire Flamand d'une certaine façon, pas tout à fait pareil. Mais
après, c'est aussi est-ce que le manager l'accepte ou non, Marc. Est-ce qu'avant un départ de tour, si un de tes coureurs dit il est possible que je bâche parce que mon épouse va accoucher, est-ce que tu le sélectionnes quand même pour le Tour de France?
Déjà, tout dépend quand la date de naissance est prévue. Si c'est au bout de 3 jours de course sur un Tour de France, par exemple, la question se pose même pas et le coureur reste à la maison. Si c'est dans les 3-4 derniers jours d'un Tour de France et que c'est un sprinter, par exemple, que tu as dans ton équipe, la situation est différente. Il y a une évolution dans le temps. Il était une époque où, dans les années 80-90, pour la naissance d'un enfant, tu ne rentrais pas. Déjà parce qu'il n'y avait pas les moyens de transport qu'il y a aujourd'hui avec les avions, il y avait beaucoup moins de correspondance qu'aujourd'hui, puis c'était pas dans l'air du temps que de rentrer à la maison pour une naissance. Donc tu terminais l'épreuve sur laquelle tu étais et tu rentrais ensuite.
Et après, si dans les années 90, dans la famille, non, mais...
toi tu as été parent après ta carrière.
Parent après ma carrière, mais j'ai quand même connu toutes ces époques à l'époque où j'étais coureur et ensuite quand j'ai créé l'équipe. Mais il y a eu une évolution des mœurs et des habitudes au fil du temps. Aujourd'hui, quand un coureur va être papa pendant des compétitions, on anticipe le programme de course ou d'entraînement pour le coureur et on essaie de s'adapter le mieux possible à la situation pour que ce soit le plus facile et le moins contraignant possible pour le coureur. Donc on trouve toujours des moyens de fonctionner. Donc sur les naissances aujourd'hui, la situation est, j'ai envie de dire, régulée dans toutes les équipes et tout le monde réagit de la même façon. Aujourd'hui, il est dans les mœurs de dire, quand on a une naissance pour un coureur, on le laisse rentrer à la maison ou on organise son programme en fonction de la naissance.
Et moi, j'ai toujours eu ça en tête en me disant, je ne peux pas louper la naissance. On voulait plusieurs enfants et je me dis, je ne peux pas en louper une et pas l'autre. Enfin, ça aurait été terrible pour moi de dire à Zoé ou à Lou, pour toi, j'étais pas là.
J'étais pas là parce que j'avais signé chez Quickstep et quand même, c'était quand même une équipe.
Non, c'était juste. Par contre, et tu fais bien de le signaler, Zoé a été conçu l'année où j'ai signé chez Quickstep. Je me voyais pas louper les courses parce que Zoé est arrivée pour ma première année de contrat dans cette équipe qui était pour moi le Graal. Donc on a fait en sorte
qu'elle laisse avant la saison.
Tu imagines la situation, tu as porté le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur sur les routes du Tour. Si à ce moment-là tu avais dû faire le choix parce que ton épouse a couché. Avec un maillot sur le dos.
À l'époque, j'avais ce maillot-là, j'étais chez Quickstep et le Quickstep avait besoin de visibilité. Est-ce que c'était pas la grande Quickstep? On était entre deux. Je pense pas que le père Lefebvre il serait tombé dessus. Je serais rentré quand même, mais il aurait pas aimé la blague, je pense.
Tiens, important, Baptiste, sur WhatsApp au 0612 424 424. On est dans le vestiaire sur comment gérer la vie privée quand on est sportif de haut niveau. Baptiste nous rappelle, souvenez-vous de Vincent Clerc qui était sorti en plein match avec le Stade Toulousain.
Bien sûr.
Il avait été autorisé par son coach Guidoves qui était
son beau-père.
Évidemment, c'était un peu décisif, quoi. Aussi pour l'entraîneur, personnellement. Bennett, un peu sur ton expérience.
Là, on parle, Thibaut Flament, c'est tout à fait normal. Il y a un télescopage de calendrier, il y a un acte médical qui doit être fait.
Parce que c'est très précis, il faut rappeler. Exactement. Il y a un jour de ponction, ça se fait à un moment précis dans la PMA.
Après, on parle des naissances ou malheureusement des décès. Est-ce qu'on doit assister aux funérailles, des choses comme ça. Là, c'est des cas, entre guillemets, extrêmes. Mais pour parler de la vie privée, qui est adaptée, oui, surtout dans les sports itinérants, le cyclisme, vous n'êtes pas souvent à la maison. Nous, on n'est pas souvent à la maison. Oui, la vie privée, elle est complètement adaptée en fonction de ta carrière, de savoir quand est-ce que tu pars en vacances. Tu vois, au mois d'octobre, mois de novembre, c'est la saison creuse. Nous aussi, mois de novembre, mois de décembre. Quand tu as une femme ou une épouse qui a une vraie activité, un vrai travail et qui n'est pas là que sur le circuit pour te suivre, tu adaptes. Et elle doit s'adapter aussi aux contraintes du calendrier, forcément. Les dates de mariage.
Nous, les mariages, les coureurs cyclistes se marient l'hiver.
Alors,
traditionnellement.
Mais nous, les mariages, bien sûr. Moi, il y en a où c'est quand tu sais que tu vas avoir pas mal de tennisman dans ta liste des invités. Oui, tu prends le calendrier et tu regardes. Est-ce que tu fais ça en septembre après les Open?
Si t'as un petit budget, tu fais ça en Roland-Garros, comme ça au moins t'as pas.
Après Wimbledon au mois de juillet, avant qu'il parte sur la tournée américaine. Voilà, c'est des choses réelles qui existent et forcément on est vraiment.
Non mais tu imposes dans l'adaptation. En fait, c'est ce qui est assez intéressant.
C'est très dur.
Tu disais, tu imposes ta carrière à tes proches.
Bien sûr.
Non mais Marc,
évidemment.
Il faut avoir une compagne ou un compagnon pour. D'autres personnes, effectivement, qui soient prêtes à accepter tout ça. C'est déterminant.
Et c'est pas toujours le cas.
C'est pas toujours simple.
Ouais.
Pas toujours simple à gérer. Il y a des. Enfin, moi, on en a souvent des exemples. Vous avez des coureurs qui s'installent dans un rythme de vie lié à leur activité sportive, à leur activité de coureur. La femme s'adapte et s'installe par rapport à ces données-là. Et tout est chamboulé le jour où le. le sportif met un terme à sa carrière.
Ah bah donc, il y a un chamboulement. Moi, je peux t'en parler. Dans ma génération, voilà, le taux de divorce, il est très, très élevé. Hein.
Ben ouais.
Non, mais c'est hyper important d'en parler parce que on n'en parle pas assez. Par exemple, là, il y a quelques jours, quand Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, a dit eh ben, je rentre aussi à Londres parce que ma famille est restée là-bas.
Ben voilà,
mais c'est vrai.
Évidemment.
Même certains joueurs, regardez Messi qui disait avec ma famille, c'est plus tout à fait la même chose à Paris comme à Barcelone. Il n'y a plus les amis et tout ça. La vie privée.
Ben, c'est compliqué.
Quand on n'expose pas, quand on est un sportif de niveau publiquement,
la famille est restée.
Mais une importance qu'on ne mesure pas quand on est journaliste ou suiveur.
Ben, non, mais c'est compliqué.
On a le même genre de problème. Moi, j'ai renoncé à des Jeux Olympiques. Je devais partir à des Jeux à Vancouver, j'en rêvais. Mais ma petite fille allait naître, ben, j'ai renoncé. On a le même genre de
problème.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont des travails très importants, ceux qui sont infirmiers, ceux qui sont routiers, ceux qui sont taxis, qui travaillent la nuit à l'hôpital, il faut s'adapter. Donc
toute activité professionnelle, on va dire, quel que soit le domaine, qui ne comporte pas des horaires traditionnels du lundi au vendredi, demande une adaptation de ta vie privée. Toi, Christophe, ça fait des années que tu fais le week-end.
Ouais.
Forcément, ta vie privée, c'est pas pareil. Quand t'es dans un couple, le week-end, ton autre moitié, elle travaille la semaine. Bah, le week-end, c'est le moment où elle espère partager du moment avec toi, etc. Mais toi, c'est ton travail. C'est une adaptation.
Là, les garçons, on parle de l'épouse et puis de la relation du couple et des enfants à la maison. Mais ce qu'il y a quand même en plus quand tu es sportif, c'est la gestion des soucis du quotidien de famille, que ce soit les maladies, les naissances, les problèmes, en même temps que gérer du sport de haut niveau, donc il faut avoir
vos
la tête
épouses,
à 200%.
Les épouses de sportifs sont vraiment vos bras droits.
Elles peuvent aussi nous poser beaucoup, beaucoup de soucis. Et là, il faut le gérer aussi. Un garçon qui est en pleine bourre et qu'il sent que sa femme, dès qu'il n'est pas là, elle part en cacahuète, c'est dur d'être concentré sur la course.
Non, mais il y a plein de choses comme ça. Sur les divorces et tout ça.
Mais bien sûr,
sur les divorces.
Non, mais moi, je vais te dire, on est là dans ce vestiaire. Moi, j'ai fait un choix d'arrêter mon dernier Giro parce que c'était chaud cacao à la maison. Je suis rentré.
Ça n'a pas
sauvé mon couple, mais je suis rentré pour ça.
Non, mais c'est important.
Il y a des choix à faire.
C'est important ce que dit Jérôme. Par exemple, nous, dans le tennis, on a des tournées dans l'année, 3-4 fois, où ça dure 4-5 semaines de suite.
Par exemple, tu pars en Australie en janvier, fin décembre.
Aujourd'hui, la plupart des joueurs qui sont en couple, ou des joueuses qui sont en couple, il y en a beaucoup, beaucoup qui voyagent maintenant, ensemble. Vraiment. Mais si tu as une épouse ou un époux qui a un vrai métier, il peut pas poser 4 semaines de vacances début janvier.
Mon fils est Vitolina, c'est pratique au moins.
Ben voilà. Donc quand tu pars 4-5 semaines de suite sans rentrer à la maison, au bout d'un moment,
tes enfants te reconnaissent plus ?
Non, c'est pas ça, mais au bout d'un moment dans ton couple, il y a une distance qui s'installe parce que toi t'es hôtel.
T'as chacun son quotidien.
Ouais. Toi, ton quotidien, t'es hôtel, cours d'entraînement, match, massage, récup, resto.
Ah, mais c'est sûr que t'es dissocié de la vie réelle.
Exactement. Et pendant que ta compagne ou ton compagnon, elle, c'est un peu gérer le quotidien, il y a eu tel truc, et en fait, au fur et à mesure,
Toi, t'es dans une vie paranormale, en fait.
Exactement. Mmh. Et donc, quand tu vis avec quelqu'un qui a une vie normale, quand tu parles longtemps, il y a une distance qui se crée. Et quand tu rentres, il faut quelques jours pour que se réaligner. Et c'est différent.
L'effet post Tour de France est terrible.
Bien sûr. Nous, on l'avait en tout début.
Tu rentres du tour, t'as envie de rester à la maison et de ne plus bouger. Et ta femme et ta famille ont envie que tu bouges et t'ailles en vacances. C'est un peu compliqué de reprendre la voiture.
Tu vis en décalage par rapport au monde réel.
On est en décalage par rapport au monde réel.
Mais c'est pareil dans notre quotidien de cycliste. Quand tu es à l'entraînement tout l'hiver et que le peu de temps que tu as, c'est souvent l'hiver, t'es à la maison. Mais quand t'as fait 5 heures de vélo, faut expliquer à madame qu'après 5 heures, c'est pas fini. Faut récupérer, faut rester au chaud, faut pas attraper froid.
Ouais.
Elle a juste envie de faire
ça, aller au dancing.
Faut que la personne qui est avec toi comprenne ça.
C'est la décompression après des gros événements. Et même pour le coup, toi, Marc, même en tant que manager, la pression au quotidien là, dans la gestion, quand est-ce que t'arrives à avoir des moments de décompression totale? Ils sont peu nombreux, j'imagine.
Ils sont peu nombreux parce que les événements et les compétitions s'enchaînent les unes derrière les autres.
Donc finalement, on n'est pas trop disponible aussi.
On est,
la disponibilité, c'est ça qui est un sujet.
Il y a la disponibilité physique et il y a la disponibilité mentale. Et c'est pas forcément toujours simple. Quand, par exemple, quand on termine un grand tour, qu'on rentre à la maison, le contraste, c'est que pendant trois semaines de grand tour, on est dans le bruit, on est dans la foule, on est dans le mouvement permanent et on n'est jamais seul quelque part.
Ouais,
on est
toujours en mouvement. Il y a d'attention médiatique.
Et le lendemain du Tour de France, tu rentres à la maison. D'abord, tu t'arrêtes au feu rouge. T'as plus le bruit de Radio Tour. T'as le silence. Enfin, tu arrives à la maison, t'es dans le silence. Et donc, il faut se réhabituer, se réacclimater à la vie normale. Quand t'es coureur, tu termines un grand tour. Le premier truc qui te fait sentir la différence, c'est quand tu enfiles des vêtements de ville. Pendant trois semaines de Tour de France, t'es en survêtement ou en tenue de coureur.
Ah ben c'est fini ça. Maintenant, tous les sportifs sont habillés.
Non mais c'est intéressant, c'est-à-dire que tu es presque deux personnes en fait.
Bien sûr.
Tu es le sportif et d'un coup tu redeviens Marc.
Oui. Tu n'es pas Marc. Tu rentres à la maison, tu retrouves ta famille, tes parents, ta femme, tes
l'anonymat.
Et bien tu retrouves une normalité.
Ça te fait pas la même chose, Georges, quand tu rentres du tour?
Nous, dans le tennis.
C'est sûr que la décompression pour tout le monde est
nous, dans le tennis, ce ressenti que vient de décrire Marc, nous, on pouvait l'avoir à l'époque de la vraie Coupe Davis, quand on jouait une grosse rencontre. On était 8-10 jours ensemble, en vase clos. On n'a pas l'habitude de ça, parce qu'on est sur le circuit, et on joue tout un week-end devant un stade monstrueux avec une attention médiatique, avec une ambiance particulière et qui génère des émotions qui sont décuplées. Bah, le lendemain, le lundi matin ou le mardi matin, quand t'es tout seul et que c'est toi qui te fais ton bol de céréales alors que pendant 8 jours, on t'a tout fait, on t'a tout fait, t'as été soigné aux petits oignons. Exactement. ce retour-là, il y a un petit moment où de décompression, quoi.
Ouais. Et c'est pas caché puisque ça a été écrit dans la presse. J'ai fait un moment de dépression post-carrière et j'ai, en consultant le spécialiste, clairement, il me dit, il faut que vous soigniez votre problème d'attitude de rockstar. C'est ça, en fait. On est quelqu'un d'autre. Je finis. C'est le phénomène d'être non performant quand t'es à la maison. Parce que, en plus de rentrer à la maison,
plus où sont les assiettes.
Si t'es pas bon. Et si t'es pas bon sur le vélo, il y a tout qui t'énerve et là tu deviens imbuvable.
Oui. Tu sais plus où sont les assiettes, ma femme, souvent. On rentre du tour. On arrive à la maison, on a tendance à s'installer dans le canapé.
Elle te dit, t'es pas
à l'hôtel ici.
Bah oui, normal.
Tu mets la table. Ok, je mets la table. Et t'arrives dans les cuisines et tu commences à te dire, au fait, est-ce qu'on ouvre les assiettes?
Non mais c'est intéressant, ça va dans le sens que me dit Christophe sur WhatsApp au 06 12 424 424. Il dit, sans vouloir être péjoratif, en fin de compte, en vous écoutant, vous êtes un peu hors sol durant votre carrière. Ça doit être difficile de revenir à quelque chose. Jérôme me dit, bonjour, nous les agriculteurs, bonjour. Il n'y a absolument pas de vie de famille. J'ai été sportif de bon niveau, je trouvais plus facile quand je me consacrais au sport, mais c'est vrai que dans la vie de l'agriculture, c'est aussi un peu comme ça, il faut faire des sacrifices.
Sauf que tu rentres à la maison tous les soirs, même si tu bosses toute la journée comme un malade.
La disponibilité mentale, il y a ça.
Là aussi, la parole des épouses ou des enfants est plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'a été. Je me souviens des déclarations de Madame Vingegaard, par exemple, l'année dernière, qui disait, l'équipe le fait trop travailler. Et je voudrais voir comment on vit ça quand on est dans une équipe et que la femme d'un de ses coéquipiers se mêle quelque part de la vie de l'équipe et comment vous le vivez, quoi.
Mais bien sûr que c'est
une question d'équilibre, en fait, la présence familiale au sein d'une structure sportive. C'est une question d'équilibre que les familles
sont bienvenues à l'hôtel.
Elles sont
au Tour
les
de
bienvenues,
France,
mais dans le respect d'un cadre.
À certains moments. Ouais. Quel est le cadre?
Le cadre, c'est on passe visiter le mari ou le papa
en journée de repos.
Journée de repos essentiellement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de récupération et un temps de vie de famille retrouvée pendant quelques heures ou quelques minutes sur une journée de repos. Mais il ne faut pas que ça devienne, un boulet pour le sportif et pour le reste de l'équipe. Parce qu'il y a quand même deux aspects dans tout ça. Il y a le côté du sportif individuellement au sein d'une équipe et il y a aussi les répercussions de la présence des autres familles sur la vie de l'équipe en général. Donc il faut trouver des bons équilibres. aujourd'hui, il n'y a pas de problème particulier parce que chacun sait jusqu'où, là où
ouais,
il peut aller.
Mais c'est important d'avoir la bulle de performance.
Je pense qu'il faut conserver.
Au petit déjeuner, tout le monde ne soit pas là. Le côté groupe. Et après, on voit l'équipe de France à la Coupe du Monde, par exemple. Hein, ils sont dans un bunker, les familles viennent de temps en temps. C'est le cas dans tous les sports.
Après, c'est aussi des moments très rafraîchissants. Moi, je me souviens, jeune néo-pro, j'avais pas d'enfant. Didier Rousse, à l'époque, avec qui je partageais la chambre, faisait venir sa femme et ses enfants à l'époque, et de l'époque. Ça a été pour moi aussi très sympa de passer du moment. Tu sors de la course, t'as les familles, ça te fait du bien. Aujourd'hui, le cadre, il est très important parce que ce qu'il faut pas oublier de dire, parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses et pas que très positives sur les gens qui nous accompagnent pendant notre carrière. Moi, je reste persuadé que si j'ai fait la carrière que j'ai, c'est que j'ai été accompagné par cette femme-là pendant ma carrière. On peut pas réussir sans être à deux et quelqu'un qui tient la route à la maison, c'est pas possible. Donc, il faut les remercier, leur tirer un coup de chapeau, mais c'est simple. C'est un vrai métier d'être femme de sportif. Je pense que c'est un vrai métier, quasiment une vraie vocation.
Vous êtes dit après votre carrière, j'ai raté des choses. J'aurais peut-être dû plus privilégier ma vie privée. Bennett?
Non. Honnêtement, non, parce que je pense.
Toi, t'as été papa pendant ta carrière?
Oui, j'ai été blessé à ce moment-là.
Donc, t'étais là, en fait.
Donc, l'année où mon épouse a été enceinte et où elle a accouché, il n'y avait aucun problème, j'étais là. J'ai même été là après pendant 5-6 mois. Moi, ce qui m'a fait drôle, c'est le 26 décembre, il est né au mois de juillet. J'ai été là tout le temps et il avait donc pratiquement 6 mois. Et là, quand j'ai fermé la porte de chez moi et que je repartais sur le circuit en Australie à l'autre bout du monde pour 4 semaines, là, je faisais pas le malin quand j'ai pris le taxi et je pourrais aller à Roissy parce que là, je me suis dit, putain, je le laisse.
En plus, il faut rappeler que derrière, t'as gagné l'Open d'Australie, hein, t'as gagné le Grand Chelem, du coup, t'es resté très longtemps sur place.
Les responsabilités qui incombent. Moi, je me souviens que le jour où la grande est née, ta vision de ton sport échange. J'ai toujours dit, après, moi, j'ai commencé à bosser. C'est devenu mon métier le jour où j'ai été papa. Parce que t'as des responsabilités que t'as pas avant. Ça change dans ta tête.
Ah, mais ça, pour le coup, c'est très personnel.
C'est très personnel.
Moi, je l'ai abordé de façon très différente.
Ma carrière, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Donc, j'ai vécu différemment.
Ouais. Mais attends, c'était un choix aussi? Tu voulais te concentrer sur ta carrière?
Sûrement un peu. Et j'avais mon mode de fonctionnement personnel. Donc, de ne pas être marié pendant ma carrière m'a plutôt servi.
Ah bah oui, parce que sinon quand tu sortais le 1er janvier
surtout
pour aller faire ta sortie sous la neige,
il y a personne qui pouvait se supporter.
Allez, on ferme la porte du vestiaire. Comment gérer la vie privée quand on est sportif de haut niveau, c'est notre débat après la décision magnifique, j'ai envie de le dire, voilà, de Thibaut Flamand de se consacrer à son projet de famille avec sa femme, et donc il va rater France-Irlande, il reviendra. Allez les amis, dans un instant le buzzer, on va parler de la mode de plus en plus présente dans le sport. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Vous êtes pour ou contre alors que Naomi Osaka fait des défilés en rentrant sur le terrain à l'Open d'Australie? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, vous pouvez retrouver le vestiaire en podcast évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement, le vestiaire qui nous a fait parler de la vie privée dans le sport de haut niveau. Tiens, il y a quelques instants, regardez Julien sur WhatsApp au 06 12 424 424 qui me dit: quel beau moment d'apaisement ce vestiaire entre vous tous et quel beau moment d'ouverture et de transparence. J'ai l'impression d'être avec vous autour d'un feu de cheminée. C'est super.
Et le temps passe.
Le temps, voilà.
Dans le micro-climat.
Et pendant ce temps-là, Salio est à la cantoche. Et voilà.
J'adorerais un podcast avec Marc Madiot qui nous chuchote juste des trucs. C'est qui nous fait des petits bruits comme ça. Vous entendez ce bruit, vous êtes tranquille et le temps passe, vous dormez. Ou sinon, on pourrait par exemple être interrompu parfois par ce bruit.
Quelle transition.
C'est bien fait la réalisation, hein. Je remercie Alban Azaïs. C'est le moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour PSG Newcastle. 28 janvier à 21h au Parc. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Dans un instant, les jeux, préparez-vous. On va voir, mais d'abord, les amis, c'est la Fashion Week, figurez-vous, cette semaine. Attendez, je vous imaginez un truc. Si vous êtes sur le Tour de France, je sais pas, cette année par exemple, vous allez au bus Groupama FDJ United et vous voyez arriver Marc Madiot dans un ensemble Yves Saint Laurent, cravate Dior et chaussures Gucci. Ça vous plairait ou pas?
RMC, les GG sur le buzzer.
C'est l'événement avant même que les matchs de débutent sur cet Open d'Australie. L'entrée de Naomi Osaka avec une nouvelle tenue de créateur. Elle avait fait sensation lors de son premier tour avec sa tenue spectaculaire, designée par Robert Boone. La voici à nouveau qui crée l'événement sur son entrée sur le court.
Ah bah moi je veux que Marco arrive comme ça au bus, cet été sur le Tour de France. On peut mettre ça en place ?
On peut mettre ça en place si tu as des bons sponsors
pour aller chercher ces marques-là. C'est la Fashion Week aussi à l'Open d'Australie, vous l'avez entendu. C'est l'image qui a fait parler dans le monde entier. Celle de Naomi Osaka à son entrée sur le court pour les matchs. La joueuse japonaise n'était pas en survêtement et tenue pour le match quand elle est rentrée sur le terrain. Non, elle est entrée avec une petite ombrelle dans une tenue du créateur de mode Robert Woon. Alors, je vais vous l'écrire. La pièce maîtresse de la tenue est une robe turquoise et verte au style tie-dye avec un dos nageur complété par un pantalon que je qualifierais de palazzo, plissé aux multiples étages, qui a créé un effet de mouvement un peu gracieux. Enfin voilà, je ne l'ai pas écrit, je vous dis ça comme
on
ça.
Tu n'as jamais proposé de présenter la Fashion Week, toi?
Non, mais il est possible,
tu es dedans.
Tu es mieux que dans le sport, finalement.
Je ne suis pas du tout allé chercher cette description sur un site de mode, je vous le dis. La mode et le sport, ça devient une habitude.
Comment t'as monté des marques à Cannes.
Et regardez Fred Weiss qui arrive pour la présentation de son film. Les joueurs NBA à leur arrivée au match, les Bleus sur les marches de Clairefontaine, la mode et le sport, ça devient une habitude qui s'installe, en fait. C'est pour ça qu'on en parle. Les GG, je vous pose la question, du coup, oui ou non, la mode de plus en plus présente dans le sport. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre, Christophe Cessieux?
Ça me dérange pas du tout.
En plus, t'as la classe, toi. Non. Je sais de quoi tu parles. Marc?
Plutôt pour.
Bennett?
Moi, ça me saoule un peu.
Jérôme?
Je suis pour, moi.
Pour, venez WhatsApp.
Mode.
06 12 424 424 où on vous attend au 32-16. Tiens, d'ailleurs, je dis que Naomi Osaka, elle a dit, au moins si je perds le match, je sais que j'aurais été au sommet des discussions sur Twitter.
Ah,
ouais.
Donc, c'est important pour elle est devenue influenceuse.
Bennett, pourquoi ça te saoule?
Parce que justement, en fait, je suis plutôt contre quand ça vient jusque sur le terrain. Voilà. Et là, elle est rentrée sur le terrain avec.
Après, t'es rentré dans le studio très bien habillé aujourd'hui, donc ça nous dérange pas, nous, mais
chic,
continue.
Chic, ouais. Gentleman farmer.
Merci, ouais. Christophe.
Non, mais sur le terrain, ça t'embête.
Oui, sur le terrain, ça m'embête.
Parce qu'elle est venue face à l'adversaire, par exemple.
Non, mais sur le terrain, ça m'embête. T'es sur le terrain, tu viens pas avec ton voile, ta truc, etc. T'habilles. Que les mecs de NBA, ils arrivent saper costard. En plus, il y a un dress code, en NBA où ils doivent, dans la salle, dans les coursives de la salle, ils vont au vestiaire, ils se changent, ils arrivent sur le parquet. Ils sont en tenue de sport.
C'est vrai que c'est un défilé quand ils arrivent
voilà
à la salle.
Mais c'est pareil à Clairefontaine.
Mais Clairefontaine, ils sont, oui. Ils sont moi, après, Clairefontaine, ouais, ça me saoulait, entre guillemets, c'est que c'était
un petit arrivé. Clairefontaine, c'est un peu too much.
Ouais, voilà. Non, t'as l'impression juste qu'ils faisaient un concours entre eux. Ah, et du coup, on parle que de ça. C'est quand on commence. Et ce que dit Osaka, c'est ça qui me dérange. C'est que, même si je perds le match, eh ben, tant pis, parce que j'aurais fait le buzz sur la toile et sur X. On aura parlé de moi sur X et sur les réseaux. Bah voilà, c'est ça.
Bah là, oui.
Mais
ça n'a rien à voir avec ça.
Marc, toi, Clairefontaine, ça t'amuse pas trop?
Non, Clairefontaine, ça va. Il y en a qui vont trop loin. Voilà. Mais qu'ils le fassent, après tout, pourquoi pas. Non, moi, ce que j'ai bien aimé cette semaine, c'est Lewis Hamilton. Ouais. À la Fashion Week.
Lui, il est
tout était bien orchestré. Il avait des tenues, classieux. Et ensuite, il y avait un autre truc, il y avait une bonne combinaison avec Ferrari. C'est-à-dire qu'il arrivait en Ferrari avec un chauffeur, une Ferrari 4 portes. Il y avait.
La classe.
Il mettait en évidence la classe de la voiture.
Non, mais exactement, c'est l'élégance de Ferrari. Bah,
il y avait l'élégance de Ferrari.
Quand tu vas chez Ferrari, tu vas pas arriver en claquette chaussette.
Non, j'ai trouvé ça subtil et classe. Quand ça se passe dans ces conditions-là, j'ai envie de dire bravo. Chapeau bas.
C'est ce que j'ai.
Après, quand on va trop loin, comme à Clairefontaine, quand je vois certaines tenues, alors où c'est moi qui suis pas adapté aux nouvelles tenues, mais
moi
je vais un peu loin quand même.
Moi j'aime bien Marco dans le kilt de Jules Koundé.
C'est bien, non mais c'est vrai que ça.
C'est Koundé qui a mis la capuche.
Non, c'était Konaté. Non mais ça devient, en fait, ils deviennent les égéries de la mode. C'est intéressant. Lewis Hamilton,
c'est ça.
Zabalenka aujourd'hui a signé un contrat aussi avec une grande maison de mode italienne. Sinner aussi.
Il a signé un contrat en 2024 avec une grande marque, et ils ont fait une pub autour de ce truc. Ça a fait 750 000 likes.
Non, mais en fait, ce sont les acteurs de cinéma et actrices d'aujourd'hui. On va chercher les sportifs.
Évidemment.
Toi, t'aimes bien ça, Jérôme?
Bien sûr, j'aime bien ça parce que ils sont aussi aujourd'hui les influenceurs auprès de la auprès des jeunes et les fringues qu'ils portent sont forcément relayées par ces gamins-là et ça fait partie du truc. Et puis faut pas oublier non plus le côté contractuel. C'est des businessmen, ils prennent le chèque-os. Tu me donnes un chèque-os pour arriver en kilt à Clairefontaine, pas de problème. Pour arriver à RMC, pareil, moi je le prends. Et de deux, je trouve que
je confirme.
C'est, bah bien sûr, évidemment.
Regarde, on va arriver en kilt
évidemment. Et moi je trouve ça chic. Regardez, moi j'ai souvenir de ça. Coupe du monde 90, la sélection italienne. À l'époque, t'as plein de photos des joueurs, les footeux sont en jogging, eux c'est Costa.
Ouais.
Et moi, quand j'ai créé l'équipe, j'ai absolument imposé à mes coureurs de monter dans l'avion et d'arriver à l'hôtel avec un jean et une veste de blazer.
C'est vrai.
Je peux pas supporter que mes coureurs montent en première ou dans un avion avec des businessmen pour aller
en survêt
claquette, quoi. C'est juste. J'ai lutté avec certains que tu as eu dans ton équipe. J'ai lutté longtemps. mais j'ai réussi à le faire.
Ce que je leur demande, c'est d'avoir en permanence, quand ils voyagent, d'être propre.
De se laver les dents.
D'avoir un signe qui rappelle leur appartement.
À nous, le blazer était au nom de l'équipe.
Soit le blazer, soit la veste, soit un pull, soit un polo, soit un t-shirt, mais quelque chose qui rappelle qu'ils sont coureurs cyclistes professionnels à la Groupama FDJ United.
United. Bennett.
Voilà. J'aime bien ce que disent. Nous, en équipe de France, pareil, à l'époque où il y avait une vraie compétition, la Coupe Davis ou la Fed Cup, dans la semaine, tu avais toujours un dîner officiel. Et donc là, au dîner officiel,
c'est la classe,
et chic,
bien sûr.
Et les joueuses, elles ont deux robes que l'équipe de France, deux couleurs différentes. Elles choisissent pour être. Par contre, elles sont toutes habillées de la même façon. Le staff aussi. Ou moi, quand j'étais joueur, les joueurs, on avait tous le même costume. Voilà, c'était en représentation. Et là, oui, tu fais un effort. Et ce que disait Jérôme aussi sur les joueurs de foot. Ça change à tous les niveaux. Les entraîneurs, il y avait beaucoup d'entraîneurs qui étaient en costume sur le bord de touche. Il y en a de moins en moins. La mode a un petit peu changé. En NBA, ils étaient tous aussi en costard à un moment donné, à une certaine époque, les entraîneurs. Maintenant, la manière de s'habiller a évolué aussi à ce niveau-là. Mais il y a un côté, quand tu es en représentation, ok. Mais là, moi, c'est pour le cas d'Osaka, rentrer comme ça sur le terrain, pour moi, c'est too much.
Non, mais par exemple, je sais pas, Marc, tu sais qu'on a parlé il y a quelques jours de. Tu disais, moi, j'aime bien Vanderpool. Voilà, il arrive, il a son personnage, il a sa belle montre, sa belle voiture. Ouais. Si demain, il arrive au bus de son équipe avant une étape Tour de France, je sais pas moi, dans une tenue de haute couture, ça te plairait?
Ça me dérange pas.
Parce que ça colle au personnage, en plus.
Ouais, ça colle au personnage. Il faut que ça reste en accord avec ce qu'est le coureur ou le sportif.
Et puis derrière, il est capable de se filer pendant une heure et demie dans la boue, le cyclocross et de gagner à chaque fois.
Je veux dire. 22 fois.
Le mec,
vient en talon aiguille au départ d'un cyclocross, ça va faire bizarre quand même.
En talon aiguille,
pour la boue, c'est possible.
Mais détends-toi, Christophe. Il y a le Tour des Flandres chaque année au Vieux Coirmont. Il y a une foule incroyable. Les Belges sont habillés comme quand ils vont à la messe le dimanche. Ils sont sapés. Comme quand ils vont en soirée et ils passent la journée dans la boue. Ça passe.
Une tradition en rugby, les après-matchs du tournoi. Tout le monde est en smoking, neupap.
C'est la classe.
Et tout le monde se déplace dans des grands hôtels. Et donc les mecs sont au vestiaire et ils enfilent le smoking avec le nœud papillon.
Chacun fait ce qu'il veut. S'il veut venir en talon aiguille, chacun fait ce qu'il veut. Ou en tenue de ville, ou en survêt. En fait, c'est surtout ça. Venez comme vous êtes, comme dirait. Je viens de l'inventer. Ce slogan. La mode de plus en plus importante dans le sport. Allez, dans un instant, les amis, ça va être de la haute couture. Christophe Cessieux n'est pas prêt pour les jeux du sport. Bon, c'est juste l'habitude. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, la dernière ligne droite. Évidemment, je vous rappelle que l'on suivra tout à l'heure la deuxième manche du slalom de Kitzbühel. Pour l'instant, nos Français Clément Noël est 7e, Paco Rassa 9e. Après, allez, 8-10e pour Clément Noël avant la deuxième manche à 13h30. Tout à l'heure, les amis, ce que je vous propose, c'est que tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
C'est du 2 contre 2, vous le savez maintenant. C'est devenu un classique des grandes gueules du sport. Vous défendez un auditeur. Répartition des équipes. Julien Beneteau, la terreur. Julien Beneteau. Avec Marc Madio.
Ouais, ils ont splitté les cyclistes.
Et Christophe Cessieux.
Tu t'as remarqué que Jérôme Pinot.
Ils ont mis ensemble. Ouais, je crois bien. Parce que tu râles trop. Je sais pas du tout d'idée sur quoi nous emmener.
Je vous rappelle que vous pouvez activer la question impossible, activable par un seul joueur par émission. Une bonne réponse, je suis complètement décontracté sur ce truc.
J'y vais, sans pression. J'y vais comme ça, on verra ce qui se passe.
En fait, ce qui est super, c'est que là, ce que tu dis dans 2 minutes ne vaudra plus tout.
Exactement. C'est complètement l'inverse.
Ça n'aura plus aucune valeur. Voilà.
C'est une espèce de méthode Coué.
Voilà, c'est ça qui ne marche pas du tout.
Non.
J'accueille les auditeurs, Malcolm et Xavier. Bonjour les amis.
Bonjour.
Salut Malcolm.
Merci d'être avec nous les gars. Malcolm, c'est toi qui as appelé en premier. Tu choisis quelle équipe? C'est Ciopino ou Benedetto Maddio?
Je vais choisir Benedetto Maddio.
Évidemment.
Malcolm
avec des winners, nous sommes des losers, mon
pote. Mais des lucky losers.
Mais du lucky loser.
Je rappelle que vous pouvez gagner donc 200 euros de bons cadeaux à faire valoir sur le site levent-à-la-française.com. Allez les GG, concentrez-vous s'il vous plaît. Question à une seule réponse. Aujourd'hui, ça va être un des événements de la journée sur RMC. C'est le Grand Prix d'Amérique en course hippique. Où se déroule-t-il?
Vincennes, Longchamp.
Je pars avant.
Vincennes, c'est Christophe.
J'ai dit moins fort, mais je pars avant.
Ah bah, il faut parler plus
fort. Et au passage, il y a deux chevaux maillés.
Il y a deux chevaux maillés. Le tuyau.
Et on grandit dans des prés sous un microclimat.
Voilà. Je parle moins fort, mais je pars avant.
Département d'élevage, la Mayenne, du Trot.
Le tuyau, l'Orne
et la Mayenne.
T'as toujours
un contrat d'ambassadeur avec le département?
Ça va être vérifié à la VAR, mais pour l'instant, le point
est pour l'instant, c'est à la VAR. Tu parles plus fort, mais je pars avant, c'est sûr.
Mais non, arrête.
Question à une seule réponse. Quel skieur a terminé sur le podium de la descente de
Kitzbühel
français? Musaton. Maxence Musaton.
Question. J'ai pas le temps d'écouter la question.
Question auditeur. Malcolm et Xavier, c'est pour vous. Je vais vous donner votre réponse et ensuite votre prénom. C'est OK pour vous?
Okay.
Quelle équipe était opposée à la section paloise hier en top 14?
Stade Toulousain, Xavier, bien joué, un point pour l'équipe Cessieux-Pinot.
Question à Enchères.
C'est quoi ta question en
Enchères? Combien d'équipes du top 8 de la Ligue des Champions vous pouvez me donner? Chacun vous me proposez, en fait c'est celui qui en propose le plus à la fin qui gagne. Jérôme, combien d'équipes t'es capable de donner dans le top 8? Et derrière, on te dit si on te suit ou pas.
Je pense 5.
5. Qui propose plus? 5.
7.
7. Oh, ah, 7, Julien Benedetto.
Et donc, ça va faire 7 points, c'est ça?
Non, pas du tout.
Ah bon?
Quelqu'un va plus loin? Quelqu'un est 18? Ok, je vais mettre. Allez, vas-y, je t'écoute.
Bayern,
c'est bon.
Ouais. Arsenal.
Arsenal, c'est bon. Les deux premiers.
Tottenham,
c'est bon.
Liverpool,
c'est bon.
Aston Villa,
c'est pas bon. Ils sont hors des 8.
Il y avait PSG. Ouais, j'avais PSG.
Mais il l'a gardé pour la
PSG. Il y avait Newcastle, il y avait Chelsea, il y avait le Real.
Parce que tout le monde se dit qu'ils font une sale saison, mais ils sont bien dans les 8. Hein.
La VAR intervient. La première réponse, vous parlez exactement en même temps. Donc, juste, on annule le point. Okay. C'est un partout.
Ça m'aurait étonné de
donc
la
là, part. Le vrai score, c'est quoi là?
Okay. Un partout.
J'ai l'impression que Benedetto, c'est un peu comme Djokovic. Il fait ce qu'il veut dans
Il met un bifton dans la main de Maxime.
Il est injouable, il choisit les règles.
Les accusations de corruption doivent être corroborées, s'il vous plaît. On est des journalistes, on a les cartes de presse.
Allez, on
enchaîne. Notre producteur a beaucoup d'argent à la main, c'est curieux. Question à une seule réponse. Tiens, comme dans le Moscato Show, qui a dit ceci? Voici mon défi du moment. Si vous êtes un athlète et que vous avez une idée de course, faites-le moi savoir.
C'est Vincent Louis.
Non, contactez-moi, éliminé. Si on s'y met, peu importe le sport que vous pratiquez, si vous voulez vous faire botter les fesses par l'homme le plus rapide du monde, je serai ravi de vous l'offrir. Non.
Ils sont éliminés.
5, 4.
C'est une seule réponse?
3, 2, 1. C'était Noah Lyles qui propose de se battre contre des amateurs.
Bon,
allez, on reste à un partout. Question auditeur, c'est pour vous, Malcolm et Xavier. Vous donnez votre réponse. Mais non, c'est... Oui, c'est ça. quel est l'adversaire de Marseille en Ligue des Champions mercredi?
Malcolm Bruges.
Bien joué. 2-1 pour l'équipe Benedetto Maddio. Question à élimination. Pour deux points, c'est parti. Chacun répond à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Citez-moi, depuis 1990, les maillots à pois du Tour de France. On commence par Marc Madiot.
Virenque.
Richard Virenque. Il a gagné le... Ouais, il a gagné.
Depuis 1990. Ah oui, oui, c'est...
Ceux qui sont arrivés ou qui l'ont porté une fois.
Non, Christophe.
Ceux qui sont arrivés à Paris avec le maillot.
Ouais, ouais, ah, oui. Ceux qui sont arrivés à Paris avec le maillot.
Vingegaard.
Jonas Vingegaard, c'est bon. Bennett.
Jalabert.
Jaja, bien sûr. Tu crois que son maillot à poids, il était sapé comme Jaja.
Évidemment.
Jérôme.
Thomas Vauclair.
Thomas Vauclair, ça passe. Marc Madiot.
Barguil.
Warren Barguil, ça passe. Christophe Cessieux.
Romain Bardet.
Romain Bardet, ça passe. Bennett.
Cappucci.
Tu veux dire Claudio?
Claudio.
Cappucci. Ça passe. Bennett.
Je viens de le dire.
C'est Jean-Bino, toi, c'est ça? 5.
Charteau, Anthony Charteau.
Ah, Anthony ouais Charteau, ton ami Chartix. Marc Madiot, là, c'est un beau jeu là. On se rappelle qu'on joue pour 2 points. Hein. Pour l'instant, c'est l'équipe Benetto Madiot qui mène 2-1. Allez, Marc, les maillots à poids depuis 90. 5, 4, 3, 2, 1. Marc Madiot éliminé. Christophe Cessieux.
Pogacar.
Tadej Pogacar.
Ah oui, merde.
Tadej Pogacar, c'est bon, bien sûr. Bennett.
Ulrich.
Yann Ulrich. Yann Ulrich, c'est pas bon. Jérôme Pinot.
J'espère qu'ils l'ont gardé dans le classement, mais Bernard Kohl a gagné le maillot à poids.
Qui? Bernard Kohl.
Bernard Kohl.
Bah non, il y est pas. Non.
Ah, mais parce qu'il est, il est parce qu'il a été déclassé.
Il a été déclassé. Il a été déclassé, mais de toute façon, Christophe Cessieux. Mais il doit valider, il doit valider ou il a gagné?
Non,
il
a gagné.
C'est gagné. C'est gagné. Comment pour Christophe Cessieux. Plus 2 points. Allez, 3-2 pour l'équipe Cessieux. Pinot. Question à une seule réponse. Les GG. Quelle est la dernière année où le Stade Toulousain n'a pas gagné le top 14? Une seule réponse.
N'a pas gagné le top 14?
La dernière année où le Stade Toulousain n'a pas gagné le top 14. Une
2021.
Seule réponse. Non, c'est pas bon.
2020?
2018. Non, c'est pas bon. Il ne reste plus que Jérôme.
2022,
Jérôme.
Bien mon Dieu.
Je rappelle, vous pouvez activer la question impossible.
Je la déclenche.
Qui déclenche la question impossible?
Chaque jour, on va se faire avoir par la question impossible.
C'est Jérôme Pinot. Il y a 4-2. Donc, soit tu marques et vous égalisez, soit. C'est pas bon,
pour égaliser,
c'est
pas moi.
Stan Wawrinka, une seule réponse possible.
Oh bah facile.
Stan Wawrinka va arrêter sa carrière à la fin de la saison. Il a gagné Roland Garros?
Oui, bien sûr.
Mais en quelle année l'a-t-il gagné chez les juniors?
En deux. Alors attends. Tu me laisses 2 secondes, je réfléchis.
1, 2.
Allez, hop. 41, moi 2, moi 18.
Allez, une réponse. 5, 4, 3, 2.
2003.
2003 ? C'est bon ! 4-4. Allez, la question, la dernière question, elle est juste pour vous. Elle est juste pour vous, les amis.
Une seule réponse ou pas ?
Une seule réponse. Thomas Coville a battu le record du monde du trophée Jules Verne, donc. Mais qui est le premier navigateur à l'avoir réussi?
Perron.
Bruno
Perron.
Perron, ouais. Bruno Perron. Christophe Cessieux.
Il passe avant
moi. À la régulière de Julien Pireto.
Il passe avant moi.
À la régulière. À côté. Quel Perron?
Bruno.
Il repart.
On sait jamais.
Félicitations Xavier, c'est toi qui remportes le bon cadeau sur le site.
Magnifique.
On est dans le jeu de destin.
Bravo.
Les jeux du sport sur RMC avec le vent à la française, créateur de bracelets mixtes intégralement confectionnés à la main en France. Rendez-vous sur levent-à-la-française.com.
Un très beau jeu, je vous félicite franchement. Autant hier c'était très laborieux, autant aujourd'hui, franchement, à la régulière.
Hier il y avait eu des rebondissements aussi.
Tu vois Christophe, tu peux le faire.
Ouais.
Tu peux le faire.
Faut que t'aies un bon équipier.
Voilà, il est pas la bonne table, Bennett.
Christophe, c'est la bonne équipe.
Merci Marc Madiot. Merci Julien Beneteau.
Merci
Jérôme Pinot. Merci Christophe Cessieux qui s'en va comme un prince. Tout de suite.